L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans ce 254e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Merci Pierre, il y avait une musique.
Il y a eu une couille dans le pâté.
Ça ne compte pas dans le quota de gros mots, non, ça c'est vrai. Donc on est heureux de vous retrouver comme chaque semaine paire pour vous expliquer l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer par la sécurité et de la vie privée, on va parler de sécurité informatique au sens sécurité presque physique, puisque une faille donc dans l'UEFI, qui est donc le BIOS contemporain, on va dire, donc qui est le gestionnaire de démarrage, le firmware, le gestionnaire de démarrage de votre ordinateur. Le premier programme, premier bout de code à être exécuté lorsque vous démarrez votre ordinateur, donc a subi des failles de sécurité concernant les cartes mères vendues par Gigabyte, donc qui s'amusait à faire des. Qui avait un système de téléchargement de mise à jour sans vérification de l'intégrité et de l'authenticité de ces mises à jour.
Ah oui,
c'est franchement pas terrible.
Ah ouais, non, c'est tous les records battus. Ils ont vraiment fait très très fort.
C'est-à-dire quelque chose qui peut potentiellement prendre le contrôle de votre ordinateur et faire des fuites. Pas de vérification.
Absolument aucune. Il y a tout ce qu'il faut dans cette faille. Donc effectivement, comme tu disais, il contrôle pas ce qu'il télécharge. Il fait des téléchargements. Alors les téléchargements peuvent être en clair ou en HTTPS. Mais en HTTPS sans vérification des certificats. Donc, c'est-à-dire
que. Ça ne sert pas à grand-chose.
Non, voilà, ça chiffre juste ce qui se passe, mais il n'y a aucune vérification que le logiciel de mise à jour sur la carte mère parle bien à la personne à laquelle il était supposé parler. Donc, il y a un gros souci là-dessus. Le contenu lui-même derrière, il est exécuté tel quel. C'est mis dans la mémoire et c'est exécuté. C'est tout. Il n'y a aucun contrôle de qu'est-ce qui est exécuté. Il ne vérifie pas les signatures. Il y a des signatures numériques sur le logiciel. Quand vous installez un logiciel sous Windows, vous pouvez avoir des avertissements. Oui, le pilote doit être, n'est pas signé, ce genre de choses. Et bien là, vous avez ça. Il n'y a aucun contrôle. C'est cadeau, c'est bonus, c'est gratuit, on vous l'offre. Et le tout sur l'UEFI. Alors, petit rappel, pourquoi beaucoup de gens, dont moi, j'avoue, hein, gueulent sur l'UEFI, c'est pour une raison toute bête. C'est que l'UEFI, en fait, il y a une grosse différence par rapport au BIOS. Tu en parlais juste avant, Alexandre, du BIOS. Le BIOS, une fois que le système démarrait, le BIOS s'arrêtait, il disparaissait. L'UEFI, non.
Il n'a pas uniquement pour rôle de démarrer les périphériques pour pouvoir lancer le système d'exploitation, mais il reste en l'état de fonctionnement, en tâche de fond.
Bah en fait, il continue de fournir des services potentiellement au système d'exploitation, et du coup, oui, il reste en tâche de fond. Il n'utilise pas beaucoup de mémoire, il utilise quelques ressources, il y a tout le nécessaire pour que ça se passe bien avec le système d'exploitation, mais il continue de tourner. Donc potentiellement, ce genre de mécanisme pourrait continue à tourner lorsque votre système d'exploitation tourne. Donc sans que vous le sachiez, votre ordinateur, et sans que aucun système de contrôle ne puisse le voir. Parce que ce que vous maîtrisez potentiellement sur votre ordinateur, c'est le système d'exploitation. La carte mère, c'est une boîte noire. Vous savez pas ce qu'elle fait, et ben là, potentiellement, elle est en train de télécharger des trucs.
Alors rappelons qu'il existe des BIOS libres.
C'est extrêmement rare, malheureusement. Il faut avoir du matériel compatible. Enfin, c'est extrêmement restrictif, malheureusement.
On va parler de nos autorités de régulation et de protection de la vie privée européenne. Et donc, celles-ci ont infligé une amende record à Meta, donc, qui est l'entreprise propriétaire de Facebook, qui a infligé donc 1,2 milliard d'euros d'amende. Donc, les CNIL européennes s'y sont mis à plusieurs.
Parce que c'était trop long à écrire.
C'est ça. Et on parle souvent de la CNIL irlandaise. Elle a dû se faire tirer un petit peu les doigts par les instances européennes pour alourdir un petit peu l'amende. L'Irlande,
Ah bah on en avait parlé il y a deux semaines.
Oui, on en parle souvent.
Oui,
on en parle souvent. Et comme l'Irlande, via une politique fiscale avantageuse, héberge de nombreux centres de données, donc de data centers,
de géants
du numérique,
ils hébergent directement les sièges sociaux également. C'est suffisant, hein, le siège social, c'est là où tu mets les sous, et voilà.
Il y a aussi des data centers en Irlande. Y a pas que
tout à fait. Ils y vont pour les moutons.
Donc, non seulement la Meta, Facebook, est contraint donc de cesser d'envoyer des données aux États-Unis. C'était ça, en fait, l'infraction. C'est que, en violation du RGPD, ils envoyaient des données personnelles aux États-Unis. Meta étant principalement un collecteur de données ayant trait à la vie privée, forcément. Et donc, et en plus, sommé de cesser ces transferts et de rapatrier les serveurs, en tout cas, rapatrier les données, en tout cas, avoir des data centers en Europe, donc qui soient donc soumis à la législation européenne pour héberger les données personnelles des utilisateurs, en gros les données que les utilisateurs de Facebook mettent dessus. Alors, c'est essentiellement ça. Alors, on va continuer.
Mais Alexandre.
Oui.
Espèce de gauchiste. Il faut donner la parole à la défense.
Donnons la parole à la défense. Et Pierre, tu es donc l'avocat du diable.
Ouais, non, faut pas déconner. Mais je vais juste citer les arguments de Facebook. Faut juste que grosso modo, hein, c'est ils ont dit, ouais, mais tout le monde il le fait de transférer les données et si on le faisait pas, on serait pas en règle par rapport à la législation américaine. Voilà. En fait, ça s'arrête là. C'est leur argumentaire est pourri.
Oui, hein? Ça c'est un peu bon. On s'est fait gauler et on va essayer de sortir un prétexte pour pas trop avoir l'air ridicule.
Oui et non.
Mais
oui et non, parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai souci, c'est que la loi américaine n'est pas compatible avec le RGPD. Point. Donc maintenant.
D'ailleurs, certains États américains ont appelé à une législation semblable au RGPD européen. Ils se moquaient au début, hein, en disant oui, alors l'Europe réglemente toujours. Et au final, l'idée d'avoir des règlements de protection de la vie privée aux États-Unis, ça fait quand même son chemin.
C'est ça. Alors, j'ai retrouvé la citation exacte. Meta qualifie l'amende d'injustifiée et inutile. Et voilà, leur argument, c'est qu'il existe un conflit de droit fondamental entre les règles du gouvernement américain sur l'accès aux données et les droits européens en matière de confidentialité.
Et, sauf que si les utilisateurs sont européens, ils sont sous la protection de la loi européenne.
Exactement.
C'est assez évident.
Et des milliers d'entreprises et d'organisations se reposent sur la possibilité de transférer les données entre l'Union européenne et les États-Unis. On n'est pas les seuls à faire du caca, alors pourquoi nous ? C'est nous qu'on paye.
On n'empêche pas le transfert de données, on empêche le transfert de données personnelles. Et ça, c'est important dans la phrase.
Exactement.
On continue avec la CNIL irlandaise qui mord quand même un petit peu.
Il faut mordre
les chevilles de Microsoft, puisque dans un communiqué à l'adresse de ses investisseurs, donc de ses actionnaires, Microsoft a annoncé qu'il fallait se préparer à devoir payer une amende pour des problématiques de vie privée sur les utilisateurs de LinkedIn. Donc, ça me rappelait que ça appartient à Microsoft. Mais moi, je l'avais oublié.
Oui, on oublie hein, qui possède qui dans ce petit monde. Et donc, ils ont mis un peu d'argent de côté. Vous savez, c'est l'argent.
Provision pour on s'est fait gauler.
Voilà, vous remplissez votre livret A. Eux, ils remplissent leur petit livret d'épargne pour amende. Et ils ont mis un petit montant dedans, c'est l'argent de la semaine, voilà, ils ont mis 425 millions de dollars. Petite somme.
Alors, petite somme, c'est ce que va devoir payer Doctolib pour ses infractions.
Doctolib ? Et oh !
Doctissimo, j'ai pardon.
On les aime pas non plus.
C'est Doctissimo,
mais c'est pas les mêmes.
Et lequel est le pire, ça je laisserai nos auditeurs se positionner là-dessus.
Il y en a un qui donne le cancer du bras droit, l'autre qui fuite tes données.
Ils ont donc été sanctionnés d'une amende de 380 000 euros, ce qui paraît assez faible. Donc une amende pour non-respect du RGPD, encore pour une fois, pour non-respect des règles sur le consentement des cookies. Alors quand je navigue sur Internet, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de problèmes avec ça. Alors, Les ce qu'on appelle les dark patterns, hein, c'est-à-dire que pour avoir continué sans accepter, il faut aller bien chercher et puis il faut le vouloir. Et même, il y a encore des sites où il faut aller dans gérer les paramètres et puis vous vous rendez compte où. Alors, soit dans le meilleur des cas, c'est en opt-out, donc par défaut, tout est décoché, il faut faire enregistrer, mais des fois, c'est accepté par défaut, il faut tout décocher.
Et ensuite, où faire trouver le bouton paramètres. Planqué.
Alors, par contre. Alors, il faudrait que, éventuellement creuser là-dessus, mais il m'arrive, en bon lillois, de consulter des sites belges, et j'ai l'impression de médias belges, et j'ai l'impression que c'est moins. Mais c'est encore pire qu'en France, si tu veux. C'est-à-dire qu'en France, en général, vous avez un petit continué sans accepter qui est planqué quelque part, et là, en Belgique, je ne le trouve pas.
Il faut c'est aller... parce qu'il est écrit en flamand.
Non, je regarde des sites francophones quand même.
Pire. Oui, et donc ils l'ont mis en flamand. C'est un dark pattern belge, écoute.
Amitié, nos auditeurs belges nous écoutent.
En plus, je suis fier de mes conneries.
Et en plus, tu es fier de tes bêtises. On va, tiens, parler un petit peu de Microsoft. Microsoft qui s'est fait pirater, Pierre. Windows XP.
Oui.
Système emblématique de Microsoft. Alors, ce qui s'est fait pirater, en fait, c'est l'algorithme qui permet de générer une clé d'activation à partir de votre clé produit.
C'est ça. Pour les gens qui se souviennent de l'installation Windows XP, parce que moi, je me souviens à l'époque, et il y avait les petits pirates en air qui disaient oui, de toute façon, les sécurités que Microsoft ajoute, ça va se faire pirater tout de suite, etc. Alors, donc, voilà, il y a 21 ans, un peu plus, 22 ans bientôt, est sorti Windows XP. Windows XP avait un nouveau mécanisme de protection, c'est-à-dire que vous deviez saisir une clé de produit à l'installation et ensuite passer une étape de validation de la clé qui dépend, selon le matériel, ça génère un code d'activation. Et de mémoire, il y avait un coup de fil à passer à Microsoft pour activer certains, dans certains cas. Enfin, c'est un peu relou.
Moi, je connais le coup de fil si tu n'as pas d'accès à Internet.
Oui, c'était ça.
Si tu n'as pas d'accès à Internet, tu es obligé de passer un coup de fil. Et donc, tu rentres tous les chiffres de ton code et après, tu dois noter. Alors, je vais commencer la séquence de site, puis la séquence suivante, puis l'autre séquence.
Oui, c'était ça. C'était chiant. Mais du coup, les gens disaient, oui, ça va être piraté. Voilà, oui, ça va être piraté. Oui, ça a mis 21 ans. Voilà, c'est le temps qu'il a fallu pour pirater ce truc, sachant que les serveurs d'activation ont été arrêtés il y a un certain temps déjà. Hein. Ça fait... Depuis, je retrouve plus la date, j'ai oublié de la noter, ça fait quelques années que les serveurs en question, il n'y a plus de réponse, on ne pouvait plus obtenir de code d'activation comme ça. Donc au passage, ça veut dire que les gens qui avaient acheté des licences Windows XP à l'époque ne pouvaient plus les installer.
Donc vous êtes condamné à avoir votre licence, votre produit n'est pas authentique.
Oui, voilà, bon, de votre écran.
Si vous avez un contrôle
non,
de Microsoft.
Par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça veut dire que pour des raisons d'archéo-informatique, on va dire, la conservation de la mémoire de l'humanité, même si ça fait un peu mal de dire que Windows XP fait partie de la mémoire de l'humanité.
Il y a beaucoup de choses qu'on aurait préféré ne pas voir qui font partie de la mémoire de l'humanité.
Exactement,
Pierre.
Exactement. Et donc, Windows XP, donc, désormais, est à nouveau installable. Alors, même Microsoft est prêt à dire que oui, c'est bon, vous pouvez le faire. Hein,
Pourtant, ils ne sont pas très portés sur l'abandonware, Microsoft.
Ils ont commencé à ouvrir les vrais...
DOS.
Les DOS, Windows 3.1, 1, 2, 3, je crois que ça commence à l'être. Au-dessus, non. Faut pas déconner. Mais après, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas forcément les droits.
Eh oui.
Ça joue. Mais voilà, il a fallu 21 ans quand même. C'est petit souvenir pour tous les pirates en herbe de l'époque qui peuvent nous écouter. Et oui, ça a mis du temps. C'était pas si simple que ça. Quoi, de la vraie sécurité, ça peut marcher.
Merci Pierre, nous allons écouter un premier morceau de musique. Nous allons donc écouter The Tangerine Club Flowers. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Si, je vous assure.
Flowers of September, these that I remember, I'll just try to represent it tenderly. Shame on you, surrender to the system like I do, cowardly. And through the alleyways, we'll lost control.
Dreaming of the ocean.
Hey, what's going on? It's not so hard thinking of the way to be calm. So far, is it hard to see? Don't know where we are or what we may find. Flowers of September blooming on the desert of my mind. Is that a place that we can breathe? I see you by the pathway, clothed in leaves and fire heart, charming me. And through the alleyways, we lost control.
C'était The Tangerine Club, Flowers. Vous écoutez l'Écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des activités. Pierre, il va bientôt être temps de partir en vacances. Encore
ouais,
un, mois, encore un mois d'émission, Pierre. Courage. Et donc, on continue avec les nouvelles sécurité et vie privée. On va parler de Mozilla, qui faisait un peu de retape, même jusque dans son navigateur pour son propre service de VPN, et a décidé d'arrêter.
Alors, c'est plus violent que ça, en fait, ce qu'ils ont fait comme retape. Et j'avoue, quand j'ai vu la capture d'écran, j'étais... Ça va pas, quoi, la capture d'écran.
En plus, souvent, les entreprises qui essaient de vous vendre absolument des VPN n'ont pas forcément de très bonnes intentions.
C'est ça. Et donc là, ça l'affiche. C'est en gros, la fenêtre complète de Firefox était grisée. Et la publicité apparaissait au milieu de la fenêtre. C'était de la publicité en plein écran.
C'est pas que c'est des mauvaises intentions, c'est qu'on va vous faire croire que ça va vous permettre de sécuriser votre navigation, alors qu'en réalité, pas vraiment.
Non, l'intérêt est assez mitigé. Franchement, enfin, alors, il mettait en avant un intérêt en termes de vie privée. C'est discutable, on peut débattre de ça assez longuement sur le fait que ça marche ou non pour améliorer la vie privée. Bah, globalement,
ça cache l'adresse IP éventuellement, ça permet de pas toujours utiliser la même adresse IP, mais après, entre les cookies et
voilà,
ça ne servira à grand chose.
Il y a suffisamment d'autres paramètres qui peuvent être utilisés pour faire du fingerprinting dans le navigateur web. J'en parlerai peut-être à l'occasion dans une digitalisation parce qu'il y a plein de solutions très très rigolotes. Et globalement, l'adresse IP, c'est pas un facteur suffisamment fiable de nos jours déjà. Donc, les sites qui se basent sur l'adresse IP, oui, ben, c'est facile et rapide. Mais, tiens, ça vient d'un VPN. Bon, ben, on va prendre l'astuce suivante. Ça va être juste un chouïa plus long. Ça va. Ça leur fait rien. Donc, la publicité du coup de Mozilla était d'autant plus mal placée que c'était vraiment pour dire améliorer votre vie privée au-delà de votre navigateur avec mise en avant de Mozilla VPN. Et là aussi, ça c'est quelque chose que je déteste, mais viscéralement. Il y avait un gros bouton Get Mozilla VPN, donc télécharger le VPN Mozilla. Et en dessous, c'était pas un bouton, c'était un lien. Pas maintenant.
Ça ressemble un peu à un dark pattern de cookies, d'acceptation de
cookies. Oui, et c'est aussi des trucs qu'on voit sur trop de systèmes.
C'est vrai que de la part de Mozilla, c'est quand même plutôt décevant.
C'est pas acceptable. D'où le retrait.
Ils ont fait marche arrière. Dans le monde du libre, quand même, ça passe assez mal. PyPy, donc le dépôt de modules Python a été attaqué, Pierre.
Tout à fait. Il y a eu une explosion du côté de PyPy sur le nombre de projets malveillants qui ont été créés.
Donc, c'est pas une raison pour dire ciao PyPy.
Non, non. Il n'y a pas d'autre alternative, hein, de toute façon. Mais le problème, en fait, c'est que comment qu'on fait pour contrôler que un projet qui est créé soit bienveillant, enfin soit malveillant ou ne le soit pas? Comment on fait pour savoir? En fait, c'est vraiment c'est le problème ne peut pas être résolu. Et donc à partir du moment où il est nécessaire pour le bon fonctionnement des entreprises de pouvoir automatiquement envoyer des mises à jour, envoyer des paquets sur le dépôt PyPy, en fait, on a un souci. Et si c'est automatisable, ça va être attaquable derrière assez facilement. Donc il y a un gros souci là-dessus, et ça montre aussi à quel point les attaques de chaînes de production, on va dire, les attaques des chaînes de production logicielle commence à être vraiment populaire et intéressante.
Tu avais fait une dédicalisation d'ailleurs il n'y a pas si longtemps sur la sécurité des chaînes de production dans les logiciels libres.
Et voilà, illustration.
Illustration, cas concret. Exactement. L'Espagne veut la fin du chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que le gouvernement espagnol s'est prononcé, alors pas officiellement, mais via des sources que Wired a reçu mais n'a pas été autorisé à dévoiler. Habituellement, c'est plutôt oui, il faut du chiffre, ok, le chiffrement, mais du chiffrement pour des usages légitimes. Mais malgré le chiffrement, on voudrait quand même savoir ce que s'échangent les utilisateurs, parce que on voudrait quand même surveiller les pédophiles, les pédopornographes ou les terroristes. Là, l'Espagne a dit carrément non, il faudrait interdire le chiffrement de bout en bout. Habituellement, c'est plutôt alors oui, mais il faut que les autorités, il faut que les gentils puissent craquer, mais il ne faut pas que les méchants puissent craquer l'algorithme de chiffrement. Ce qui n'a aucun sens d'un point de vue technique.
Voilà, moi je t'avoue, en fait, pendant que tu parlais, je réfléchissais, en fait, je préfère le point de vue. Je préfère encore ce que dit l'Espagne, quoi.
Au moins, ils y vont franco.
Au moins, c'est honnête. Oui, et l'Espagne y va franco, oui. Ouais, tout le monde doit en choper celle-là.
Pourtant, c'est un gouvernement socialiste.
Alors. Non, mais c'est dramatique de fonctionner comme ça, malheureusement. Et au moins, là, voilà, c'est clair. C'est le chiffrement de bout à bout, on n'en veut pas. Je rappelle que le chiffrement de bout en bout, à partir du moment où il est possible d'avoir des portes dérobées dedans, ça veut dire que c'est plus du chiffrement de bout en bout, hein, faut pas déconner. Et on en avait parlé il y a 2 semaines ou il y a 4 semaines, les juristes de l'Union Européenne ont dit « Non mais ça passera pas, arrêtez vos conneries, c'est n'importe quoi ». Mais voilà, c'est un de plus en moins.
D'ailleurs, c'est souvent de la part de l'Espagne qui, voilà, je parlais de Franco, mais qui connaît les conséquences d'avoir un régime totalitaire d'extrême droite.
Ouais, mais c'est pas un régime totalitaire.
Ils ont quand même de l'expérience.
Ça va, c'est juste lire le chat, c'est pas comme si on ouvrait les courriers.
Bah, ils sont quand même bien placés pour savoir qu'à une république peut succéder à un régime autoritaire.
Exactement.
Des télévisions et des smartphones, tu as écrit un téléphone Android, un malware intégré. C'est marrant, signe des temps. Avant, c'était plutôt les ordinateurs qui étaient victimes d'attaques informatiques, enfin, ou de malware. Puis les téléphones, et maintenant même les télés, avec les télés connectés et les box télé.
C'est ça. Ce qui a été préinstallé, c'est vraiment. C'est une conférence qui est passée à la Black Hat à Singapour. Il y a 8,5 millions de téléphones de 50 marques différentes qui étaient infectés. Et il est très très probable que ça a été pré-infecté avant d'être distribué. Donc là aussi, on est sur une infection, enfin sur une attaque au niveau d'une chaîne de production. Ça aussi, c'est rigolo. Est-ce que le téléphone que je viens d'acheter, il contient vraiment ce que le fabricant voulait mettre, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ajouté en plus, soit par le fabricant à l'insu de son plein gré, soit par quelqu'un de malveillant chez le fabricant, soit par un état ou autre? Impossible, ça.
Ou l'opérateur téléphonique.
Oui. Quand on l'achète près d'un opérateur téléphonique, effectivement, ça rajoute quelques petits trucs. Et donc là, bah, c'est une petite porte dérobée qui communique avec un, alors, ce qu'on appelle un serveur command and control, donc un serveur de contrôle à distance. C'est le classique des systèmes DDoS. Enfin, tout va bien.
DDoS, tu peux quand même rappeler ce que c'est.
Déni de service distribué. Donc, en gros, votre appareil pourra participer à des attaques groupées contre des cibles diverses et variées.
Utiliser... On sature un site internet, un serveur de requêtes pour faire tomber le service et faire en sorte que ça tombe en panne.
Alors, exactement. Et au niveau des télévisions, a priori, c'était des télévisions qui étaient vendues sur des sites pas très connus, hein, Amazon, voilà. Qui avait le même problème. Mais voilà, on ne sait pas.
C'est des téléviseurs, je ne sais pas, parce que ouais, j'ai vu Amazon alors, TV, mais est-ce que c'est des télévisions de marque, on va dire, pas vraiment connues et qui ont été fabriquées spécialement pour Amazon? Parce que des fois, vous voyez, hein, des produits qui sont vendus que chez eux, ou est-ce que c'est de marques qui ont pignon sur rue? Ça. Bon. Alors, la nouvelle était un peu succincte.
C'est des box télé là aussi, hein, qui étaient concernés. Enfin, je sais pas.
Ça vient de Slashdot, hein. C'est rarement des articles très fouillés. Ou alors ça donne des liens éventuellement vers des.
C'est ça. Mais là, des articles, et là, en plus, comme c'est des présentations de la Black Hat, il faudrait avoir vu la présentation complète pour suivre.
On va parler logiciel, évidemment. Logiciel libre. Après un deuxième morceau de musique, nous allons écouter Axel Enhardt, Out of My Head. Vous écoutez les Codec Doux sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre. Lille.com. Pierre, je te laisse le temps.
Axel Enhardt, Criminal. C'est ça le titre.
Criminal, oui, Criminal, pardon.
Voilà, parce que sinon,
j'ai mal mis mes notes.
Je sais que je suis fatigué, mais il ne faut pas le déconner.
Bah, je m'y mets aussi, Pierre. Hein.
Donc, Axel Enhardt, Criminal. À tout de suite.
Counting the stars like city lights. I don't know where I'll end up later. Maybe lost in the ashes, lost in the ashes.
Everywhere I go, in these busy streets, I'm a criminal. Everywhere.
C'était Accès à un ARF, Criminal. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler logiciel libre. Et l'équipe desktop de Red Hat, donc distribution Linux emblématique, une même des principales, et j'irais même la principale distribution commerciale, arrête le support d'un des logiciels les plus célèbres du logiciel libre, un des plus utilisés, qui est LibreOffice.
Exactement. Alors, j'ai pas vu grand monde se réjouir de l'annonce. Maintenant, j'ai pas vu grand monde non plus s'en inquiéter suffisamment à mes yeux, en fait. Même c'est assez inquiétant, vraiment.
Red Hat est quand même une des entreprises qui a de l'expérience sur l'expérience utilisateur de bureau.
Exactement. Linux. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est pas terrible. Alors, l'argumentaire. Prenons l'argumentaire de Red Hat. L'équipe système d'affichage, donc qui s'occupe de la plupart des efforts sur l'utilisation de bureaux de Red Hat, a maintenu des paquets LibreOffice pendant des années, pour Fedora et pour la distribution RHEL, donc Red Hat Enterprise. Désormais, ils ont décidé de changer leurs priorités, donc de se concentrer sur les problèmes d'affichage avec Wayland, améliorer le support HDR, améliorer la colorimétrie et pas mal d'autres chantiers qui sont nécessaires au niveau du poste de travail. Et par conséquent, ils ont moins de ressources disponibles et LibreOffice passe à l'AS. Et moi, je vais juste mettre en corrélation avec un graphique que je suis allé rechercher. Et j'avoue, quand je fais la corrélation, ça m'inquiète pas mal. Red Hat, sur la sortie de LibreOffice 7.5, donc l'une des dernières mises à jour de LibreOffice. En fait, on a des statistiques pour savoir qui contribue à LibreOffice. Et donc sur cette version de LibreOffice, les premiers contributeurs en nombre de commits sont, donc en nombre de changements, ça a été l'entreprise Collabora, qui est très connue pour ses contributions à LibreOffice. En nombre de développeurs, c'est les premiers, c'est les indépendants, mais les volontaires. Et en deuxième, ça a été Collabora. Par contre, les deuxièmes en nombre de commits, ça a été Red Hat. 25% des changements de LibreOffice 7.5 ont été faits par des gens de Red Hat, à titre professionnel a priori. Donc oui, là, ça me fait peur.
S'ils sont marqués comme étant salariés de Red Hat, c'est qu'ils ont fait ça. Donc, de manière, alors, soit parce que Red Hat leur octroie du temps de travail, ce que ça se fait souvent pour attirer les développeurs de logiciels libres, de leur laisser du temps pour des projets perso, ou alors parce que voilà, dans la stratégie commerciale, ils avaient intérêt, considéraient avoir intérêt à maintenir des logiciels de bureau. Ils abandonnent pas le bureau pourtant parce que
non, ils abandonnent pas le bureau.
C'est assez paradoxal parce que LibreOffice, rien, il y a pas vraiment d'alternative au niveau
bureautique.
Alors, logiciel bureautique,
non, mais en fait, leur argument, c'est de dire ouais, mais c'est bon, vous pouvez utiliser LibreOffice réinstallable encore avec les Flatpak et puis voilà, on n'en parle plus, on n'a plus à s'en occuper. Mais cet argumentaire-là, moi, il me va pas puisque c'est bien plus violent que ça puisque a priori, c'est un désengagement et donc LibreOffice va perdre le quart de ses contributions. C'est énorme. Ou alors, j'ai pas eu de bol, et quand j'ai sorti le graphique de LibreOffice 7.5, coup de bol, c'est celui-là où Red Hat avait beaucoup contribué.
Red Hat...
De mémoire, en fait, je me souvenais que Red Hat constituait une grosse partie, donc j'ai juste pris celui-là parce que c'est l'un des derniers. Mais je suis sûr que si je vais chercher les chiffres d'avant, du coup, je suis, pour le coup, assez inquiet de ce qui va se passer. À suivre.
On va parler d'une autre distribution très célèbre, Ubuntu, celle qui est la plus connue, d'ailleurs, du grand public, qui prévoit une version 100% Snap de sa prochaine distribution. Et donc, tu parles, Pierre, de l'imminence de distribution immuable, dans la mesure où, si c'est mis à jour régulièrement par des nouveaux Snap, il n'y a plus à mettre à jour les paquets.
C'est pas que ça ce que cache Immuable.
C'est pas que ça. Tu vas nous expliquer, Pierre.
Non, t'as pas envie. Ouais, okay. Non, il y aura une déguisation pour le sujet d'immuable. Par contre, le changement là dans Ubuntu, le fait de passer sur des snaps par défaut, il est assez important. Ubuntu, historiquement, est un dérivé de la distribution Debian. Donc, il utilise ces formats de paquets, donc la façon de distribuer les logiciels sous Linux, qui sont des fichiers .deb. Et donc, Ubuntu, il y a quelques années, ils ont annoncé, on va faire notre propre format de distribution de logiciels, on va appeler ça des snaps. Ce sont les seuls à utiliser ça, hein. Toutes les autres distributions Linux utilisent Flatpak en complément, éventuellement, de leur système de base. Et Ubuntu, ben là, ils ont décidé de tout miser sur Snap au point de faire une distribution qui ne contienne que ça, que des applications distribuées à ce format-là. Et pour avoir aidé récemment encore quelqu'un qui disait « Mais où est le fichier de configuration de mon Firefox ? J'ai besoin de le lire pour un truc d'extension. Où est-ce que c'est mis lorsque l'application est dans un Snap ?» Ça va être une partie de plaisir. Parce que justement, c'est l'un des défauts de ces systèmes-là. Ça découpe tout. C'est éparpillé façon puzzle. C'est assez désagréable. Donc...
C'est le Linux, une distribution. Il n'y a plus besoin des conventions. On avait parlé lors d'une délégalisation il y a...
Il y a longtemps.
Avec parfois certains héritages du passé qui sont un peu obsolètes. Mais voilà, les fichiers de configuration sont à certains endroits, dans /etc, voilà, binaire, dans /bin, /usbin ou user local bin. Ça t'a expliqué que c'était des héritages un petit peu encombrants. Les librairies dans /lib. Voilà, grosso modo, fichier à sa place et un utilisateur qui connaît un petit peu Linux va normalement pouvoir facilement se repérer.
Là on va avoir des... Techniquement, c'est un gros truc et honnêtement, je vois pas ça bien se passer techniquement pour les machines à faible puissance ou modérées. Ça va être très rigolo, on en avait déjà parlé aussi. Un problème de Firefox sur Ubuntu, c'est que c'est diffusé sous forme de snap. Et un Firefox classique, ça démarre en 1-2 secondes. Et ben là, en snap, ils étaient super contents parce qu'ils avaient réussi à réduire le temps de démarrage à 5 secondes avec des optimisations. Moi, ça me choque.
Ouais. Et que ça laisse le temps de cliquer plusieurs fois sur l'icône pour pouvoir.
Moi, ça me va pas.
Démarrer.
Donc, cet avenir-là, je le vois pas en rose, pour ma part.
On va parler logiciel pas libre avec Windows 11 qui va gérer plus de formats d'archives, notamment le Target Z.
T'as pas tout lu.
Mais plus de pubs. Oui, j'ai quand même lu le reste, Pierre, quand même.
T'as lu le reste, mais t'as pas tout lu.
J'ai pas tout lu.
Windows va gérer plus de formats d'archives. Oui, mais est-ce que c'est du logiciel pas libre? Eh bien non, puisque en fait, ils ont décidé d'utiliser LibArchive, qui est un logiciel libre.
Libre sous licence
BSD.
BSD, oui.
Évidemment. Faut pas déconner, ils vont pas mettre du code GPL, hein, ça reste Microsoft. Et donc, voilà, c'est... À quoi ça sert le libre? Le libre, ça sert aussi à faire mieux marcher Windows.
Si tu mettais du code GPL, ils seraient obligés de passer tout Windows en GPL.
Bah, pas forcément tout, juste les composants concernés. Honnêtement, là, c'est une extension de shell, ça passerait. Hein.
C'est vrai. Bon.
Mais, politique interne, ils voudront jamais. Par contre, voilà. Donc, Microsoft va enfin avoir le support d'autre chose que le zip. Donc, comme ça, la prochaine fois... que tu me donnes un fichier pour l'émission que je mets sur mon serveur, je ne serai plus à me dire « Putain, quel con, je ne l'ai pas mis en zip, je vais devoir improviser pour les musiques. »
Histoire vraie.
Il était temps, parce qu'effectivement, Windows, ça fait depuis les débuts 2000 que Windows gère uniquement le format zip. C'est vrai qu'il n'y a aucun autre format d'archives qui est utilisé dans le monde.
Et déjà, pendant longtemps, il ne gérait pas le format zip tout seul. Enfin, il ne gérait pas le format zip, il fallait installer WinZip.
Oui, ça encore avant, c'est à partir de Windows XP, justement.
C'était un gros changement, oui. Ça. NVIDIA change la licence de son firmware GSP pour aider les pilotes libres, Pierre.
Oui, bah, essayons de parler un petit peu des pilotes libres de temps en temps, hein. Ça serait bien que ça se développe pour NVIDIA. On en avait parlé, il y a eu une grosse annonce d'NVIDIA, mais il y avait un gros bémol à ce moment-là. NVIDIA, en fait, a décidé de déplacer une partie du code dans un firmware, enfin dans une puce sur la carte NVIDIA pour que bah, ce soit plus facile à gérer pour les gens qui font les pilotes libres, qui n'est pas à connaître des secrets industriels que NVIDIA ne souhaite pas diffuser. Disons-le comme ça. Et donc le problème, c'est que ce composant logiciel-là, il était sous une licence propriétaire qui interdisait sa redistribution. Oh la boulette! Et donc, voilà, qui interdisait la distribution. C'était compliqué. La licence n'était pas claire, elle ne permettait pas une bonne. L'interprétation, en fait, c'était interprétable, donc c'était un gros problème, vu que ça parle de juridique. Et donc là, voilà, ils ont nettoyé, maintenant c'est bon, c'est clair, on peut distribuer comme vous vouliez le faire, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire une épine en moins dans le pied d'un pilote libre pour les cartes NVIDIA qui sont là-dessus franchement à la traîne par rapport aux autres.
On va terminer la partie actualité par une campagne de financement de Pierre. Tu voulais y
inscrire J'en caserai une deuxième après, s'il te plaît. Okay. Tu m'en donnes une deuxième.
Je donne une deuxième. Donc, on va quand même parler de la campagne de financement lancée par Framasoft, d'Orloton Dégooglison. Et ils aiment
Ils aiment bien les rimes en on.
Donc, Dégooglison Internet ou Dégooglison, peut-être que j'écris, c'est Dégooglison, c'est encore plus compliqué à prononcer. Et donc, j'aurais une initiative, une action globale que Framasoft voudrait rendre non dépendante de Framasoft, puisque c'est un mouvement à lancer donc, pour s'émanciper de Google, donc avoir une messagerie qui ne soit pas Gmail, avoir une cartographie qui ne soit pas Google Maps, et encore. Typiquement, on utilise des services de Framasoft hébergés par exemple par l'April pour transférer nos playlists et nos émissions, par exemple. Et donc, cette initiative donc, a besoin donc, d'argent. Puisqu'il y a des services derrière,
il y a des serveurs, il y a des humains.
Donc là, un des services d'alternative donc à Google News, Google Groups, donc voilà. Framalist, donc maintenant est saturé. Donc il voudrait lancer Frama Group, mais pour ça, il faut un petit peu de ressources. Framasoft donc encourage aussi la création de chatons. Donc fournisseurs d'accès de services décentralisés, donc qui fourniraient donc ces services. Le principe de Framasoft, c'est que les services qu'ils offrent sont donc des exemples. Voilà, c'est pour permettre de montrer ce qui existe, et ce qu'ils veulent, c'est que chaque association ou entreprise prenne en main eux-mêmes ces outils et leur propre version, leur propre instance donc, de ces services basés sur des outils libres. Donc à propos de chatons, on salue Raoul, donc, qui est le chaton lillois, et dont les personnes qui en font partie savent qu'ils ont tout à fait antenne ouverte chez nous. Et on ne manque pas de leur rappeler à chaque fois qu'on les voit à une permanence du libre chaque dernier mardi du mois.
Pierre. Et je peux caser la dernière actualité.
Tu peux caser la dernière actualité.
Alors, est-ce que j'ai encore droit à mon quota de gros mots?
Disons que il y a quand même des lois sur la diffamation, ce genre de choses.
Ah non
on essaie quand même d'être relativement... de se tenir pas trop mal, quand même.
Oui, d'accord. Oui, non, mais là, ça va, du coup. Ça va. C'est pas la diffamation, là. Là, franchement, c'est bon. Ils ont
donc
gagné
si
leur diplôme.
Si vous avez les oreilles sensibles, fermez-les pendant 5 secondes. C'est le temps que l'on t'accorde, Pierre.
On va parler de fils de pute, aujourd'hui. On va parler de vendeurs d'encre et d'imprimantes. On va parler HP. Ils ont battu tous les records que je connaissais. Parce que, franchement... Il y a des...
Oui, j'ai vu, c'est
magnifique. Comment tu veux que je...
Non, mais je vais m'y mettre aussi, c'est des gros bâtards.
Oui, comment tu veux que je la donne pas, cette actualité-là? S'il te plaît, tu me fais pas ça.
Mais je vous fais pas ça, allez.
Donc, la meilleure imprimante en vente sur Amazon, alors peut-être aux États-Unis, je me suis pas amusé à les vérifier, c'est la HP DeskJet 2755E. Elle vous est vendue, mais c'est normal que ce soit le top des ventes, puisque... Pour seulement $85, vous avez une imprimante couleur sans fil qui fait scanner. Et
Wi-Fi.
Et 6 mois d'encre gratuite. Waouh ! Ça vient aussi avec HP+. Et là, on va commencer à rigoler. Alors, parce que les imprimantes, elles avaient déjà des tas de méthodes de gros salopards pour vous faire acheter plus d'encre. C'est-à-dire... discrètement gaspiller de l'encre.
Ou alors devoir vous obliger à changer toute la cartouche si une seule des couleurs est épuisée.
C'est ça. Ou vous dire non, elle est vide la cartouche là. Regardez, ça sort plus quand on imprime. Alors que non, il reste plein d'encre dedans.
Ou tout simplement, le plus simple, enfin le plus répandu, c'est interdire l'utilisation de cartouches qui ne soient pas vendues par le fabricant de votre imprimante.
Exactement. Ou autre méthode aussi, interdire l'achat de cartouches d'autres régions du monde. Parce que comme ça, on pratique des tarifs différentiels sur les marchés.
Même ça, sur les DVD, ça se fait plus.
Si. Ouais. Si t'achètes encore des DVD. Maintenant, sur les Blu-ray, ça se fait plus. Mais donc, là, ils ont fait quelque chose de magnifique. C'est... lorsque tu branches l'imprimante, tu as 7 jours pour réclamer ton encre gratuite. C'est 7 jours. C'est attention, si vous, dans 5 jours vous n'avez pas validé, si dans 3 jours vous n'avez pas validé, vous perdrez l'occasion de votre vie. Déjà, ah oui, faites-le maintenant, et comme ça on vous donne un an, pas 6 mois, un an de garantie supplémentaire, et en plus on va même planter des arbres.
Moi les arbres, je ne vais pas résister.
Voilà, c'est...
Mais ceci ne cacherait pas une petite...
Et ça cache, effectivement, une petite puputerie, c'est que lorsqu'on accepte, ça modifie le firmware de l'imprimante pour rejeter toute cartouche qui ne soit pas HP. Une cartouche compatible ne sera plus autorisée.
C'est joli, hein.
C'est magnifique. L'imprimante est vendue compatible, enfin, est vendue ouverte, et on vous fait, on joue sur tous les biais cognitifs. C'est de la fear of missing out en anglais, c'est la peur de rater quelque chose. C'est comme, c'est pour ça qu'on joue
c'est
sur.
C'est quand même très
vous avez
utilisé par les
seulement.
Escrocs, ça.
Oui, et mais là, c'est exactement ce qu'ils font. Et c'est vraiment un gros truc de salopard, je trouve. Je suis stupéfait qu'ils aient pu tomber aussi bas.
Je parlerai pour ma part de Gougnafier.
Eh oui, c'est vrai. Parlons plutôt de Gougnafier. Merci HP. C'est...
Et merci Pierre pour les actualités. La délocalisation, c'est après un troisième morceau de musique. So far as I know, Polaris. Vous écoutez l'écho des sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Sofar Ayaz No Polaris. Vous écoutez les Codecs sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégicalisation. Et le thème d'aujourd'hui, Electron, Pierre Lacon. Et Pierre n'est sûrement pas tête de liste.
Tout à fait. On va parler Electron. Electron, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pour pouvoir en parler, je vais d'abord devoir donner un petit peu de contexte sur ce qu'est une runtime, en anglais, un environnement d'exécution. Dans des temps anciens, très anciens, les développeurs devaient tout faire de A à Z. Ils parlaient directement au matériel et du coup, il n'y avait pas de composants réutilisables qu'on pouvait directement prendre. De toute façon, il n'y avait pas de règles du jeu. C'était tant que le matériel il fait ce que tu lui demandes, ben c'est bon, quoi. Bon, ça marche plus aujourd'hui. Les développeurs ne parlent plus directement au matériel. Et il y a des tas de composants réutilisables. Personne aujourd'hui ne s'amuserait à redévelopper de quoi faire des requêtes web. De quoi faire, je sais pas, de quoi lire des fichiers de musique, de quoi lire des archives ou autre. Voilà, même Microsoft ne le fait plus. Ils prennent un composant existant parce que faut pas être con. Voilà, oui, on ne réinvente pas la roue. C'est logique. Et à partir des années 90, on a vu commencer à apparaître des quadriciels, pour parler français, des frameworks, des ensembles logiciels de plus en plus évolués.
Je ne connais soit pas le quadriciel.
Et si, tout
enfin, à quadriciel, fait. Le quadriciel, pas quadriciel.
C'est avec un C. C'est avec un C comme cadre.
Oui, vous avez voilà. Compris, un frame, cadre.
Voilà, non, mais je trouve le nom assez joli. On a vu apparaître, à partir des années 80-90, on a vu apparaître des ensembles de plus en plus complets et intégrés. Qui permettait de développer des applications en réutilisant. On avait accès à un panel énorme d'éléments à réutiliser et tout allait bien. Alors, ça avait ses petits inconvénients. Alors, pour ceux qui ont des bons souvenirs des années 90, début 2000, notamment sur Windows, le petit jeu, c'était de lancer une dizaine d'applications et sentir, dire, celle-là, elle a été développée avec les outils de Borland, celle-là, elle a été développée avec .NET, celle-là, avec Java, celle-là, oh, ça sent le visuel basique.
Pierre, c'était ton petit jeu à toi, en fait.
Je t'emmerde. Moi, je m'amusais bien. Bref, on avait quand même, il y avait un petit truc, on voyait les applications, elles étaient développées avec différents composants, ça laissait une marque. Mais il y avait un ensemble de cadres qui existaient comme ça, et surtout, c'était relativement léger et adapté. Alors, certes, il y avait quelques cas où, effectivement, la consommation de mémoire, elle partait un peu en vrille, notamment les applications Java avaient une tendance forte à la consommation de mémoire parce que c'était pas les cas d'usage les plus optimisés, on va dire. Maintenant, projetons-nous dans le présent. Il y a eu une évolution importante par rapport au début des années 2000. Et moi, déjà, elle me met un peu mal à l'aise, cette évolution. Et alors, il y a une deuxième évolution par-dessus ça qui, moi, me sort par les trous de nez. La première évolution, ça a été de dire, on doit cette évolution notamment à nos amis Google, évidemment, ça a été de dire, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de développer d'applications, on fait tout dans des applications web. Il n'y a plus besoin d'applications sur les ordinateurs directement. C'est tellement mieux, tu vois, tout est dans le navigateur web, t'as accès à tout, c'est mis à jour directement, c'est trop bien. Okay, avec la voix de chiottes qui va avec.
Oui, je.
Non, c'est ça, la voix de chiottes ou les gros mots
dont tu étais, entre guillemets, victime, c'est l'appli web, mais quand même dans une appli, pour pas qu'on puisse consulter le site internet directement.
Et bien voilà, et ça commence à partir sur ce qu'est Electron. Parce que donc les applications web ont progressé, on s'est dit on va rajouter plein de fonctionnalités dans le navigateur web. Vous avez l'afficheur de documents. Un navigateur web, c'est un afficheur de documents à la base. On va le tordre dans tous les sens, et au bout d'un moment, ça fait des chocs à pic, et ça fait un quadriciel. Enfin, on a des quadriciels qui sont ajoutés, développés par-dessus ça, et on peut créer des applications complètes. Regardez, c'est trop bien, ça tourne dans un navigateur web, youpi. Et il y a des gens qui se sont dit, ouais, mais moi j'ai envie de distribuer mon application quand même, de dire, regardez, c'est une application pour Windows, une application pour Linux, une application pour macOS, regardez, c'est une vraie application. Vous l'ouvrez, c'est un .exe. Et on appelle ça Electron. Electron, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui fournit un moteur Chrome et une fenêtre autour.
C'est-à-dire un moteur Chrome pas mis à jour du coup.
Ah ben, il faut mettre à jour l'application. Il faut mettre à jour ton Electron et mettre à jour du coup les applications qui utilisent Electron. Évidemment.
Oui.
Voilà, c'est, sinon, c'est pas mis à jour. Puis on est sous Windows, hein, donc les mises à jour, c'est indépendant de chaque application. Voilà. Et donc, qui s'appelle Rio Electron. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... Alors, voilà, c'est, si vous avez le flair, vous vous dites tout de suite, putain, on est en train de me vendre une application web et pas une vraie application. On vous vend des applications pour dire, regardez, voilà, là, là et pourquoi j'en parle, bah, j'ai acheté un équipement il n'y a pas longtemps, et l'application de configuration, alors je me suis dit, ah, putain, c'est une application Windows, je vais essayer de regarder un petit peu pour faire marcher ça sous Linux, donc je vais devoir documenter et tout, et je me rends compte que c'est un machin Electron. Et là où je suis vraiment vénère, on reparle un petit peu, on en a déjà parlé, de sobriété. Sobriété, j'écris ton nom. L'application Electron en question pèse 400 mégas quasiment. 400 mégaoctets pour mettre à jour le firmware d'un écouteur Bluetooth.
C'est pas mal.
400 mégaoctets. Alors là, pendant la pause musicale, je suis allé vérifier. Aujourd'hui encore, je peux acheter des machines neuves, des ordinateurs portables, qui ont un stockage de 128 gigaoctets seulement. Comment on fait sur un tel stockage si chaque application se met à consommer 300, 400 mégaoctets pour rien? C'est plus de place qu'un LibreOffice complet. C'est plus que LibreOffice.
C'est quoi? C'est en fait c'est le Chrome complet en fait.
Ben oui. C'est juste ça.
Plus,
c'est
du coup si vous avez deux navigateurs, si vous avez déjà Chrome, en fait vous avez deux Chrome.
Ben, si vous avez déjà Chrome, vous avez déjà deux Chrome de base, puisque Windows a son propre Chrome. Si vous installez des applications Electron, ben, vous multipliez les petits Chrome.
C'est par Edge.
Et accessoirement, histoire encore histoire de finir de pleurer, ça veut dire aussi que les développeurs de ces trucs-là, quand ils diffusent leur machin sous forme d'application web en plus à côté, parce que certains le font, ça veut dire que la probabilité pour qu'ils testent leur code avec autre chose que Chrome, genre avec Firefox, hein, le dernier des survivants, cette probabilité-là, elle commence à être franchement faible. Donc on se fait avoir sur tous les fronts, on se retrouve avec des applications qui prennent une place folle, qui sont pas intégrées du tout au système, qui ont des comportements, qui ont une esthétique, mais c'est l'application web, donc on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règles. Hein. À quoi ça sert de respecter les règles d'interface graphique du système, hein, après tout. Et d'ailleurs, dans les développements récents, il est prévu, je crois, de faire que ça puisse être les applications web qui déterminent le bandeau en haut de la fenêtre. Et même pas que dans Electron d'ailleurs, hein, dans Chrome aussi. C'est-à-dire que le bandeau avec les boutons de réduire, maximiser, fermer la fenêtre, ce bandeau-là, ce sera contrôlable par les pages web, par les applications web. On va dans un monde fantastique. J'ai envie de me pendre. Je déteste ces développements-là.
N'allez pas jusque-là.
Non, mais c'est simple. Moi, ça me donne juste... Au fur et à mesure, du coup, je vais devoir développer de plus en plus de petites applications juste pour mon propre usage. C'est mignon.
En tout cas, ça me convient d'utiliser toujours Firefox. Comme navigateur.
Oui, et les applications Electron, ben, c'est facile à voir, ça prend beaucoup de place, ça rame et ça fait pas plus que la page web.
Merci Pierre pour cette déguitilisation. C'était le 254e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines, nous serons donc le dimanche 18 juin en direct approximatif, donc de 19h à 20h, donc probablement je serai le mercredi ou le jeudi, mais on vous tiendra au courant. La semaine prochaine, on sera semaine impaire et vous retrouverez une émission de jazz qui est la deuxième ligne.
Toi aussi, il faut vivement les vacances.
Vivement les vacances, oui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et comme tous les dimanches après notre émission, vous retrouverez Chupa Pimento de l'Electro. Au revoir à tous et bonne fin de week-end encore une fois.
Bonne fin de week-end, ciao.
Petit jingle peut-être.
Oui. Ah. Dans le monde libre. Il y a quelqu'un qui avait joué avec la console avant, c'est pas ma faute.
Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.